Je suis donc Gilles Monceau, effectivement. Je travaille à l'université de Cergy-Pontoise, et en particulier donc dans l'ESP, ex-IUFM, donc. Direct IUFM, c'est d'ailleurs déjà une grosse simplification parce que c'est loin d'être aussi simple que ça, mais bon. Dans cet ESP, je travaille en particulier sur des masters qui sont actuellement pour moi des masters directement d'enseignement. Actuellement, je n'interviens plus, par exemple, auprès des professeurs des écoles, encore un peu auprès des CPE. Mais nous avons développé un ensemble de formations qu'on appelle, pour ceux qui connaissent un peu, les formations de MEF 4. Et dans ces formations, il y a des formations qui correspondent à certaines que certains d'entre vous suivent, qui sont des masters de formation de formateurs. Alors, soit master formation de formateur spécialisé enseignement, soit on a aussi un master qu'on appelle formation à l'accompagnement professionnel, dans lequel on mêle des formateurs de l'enseignement, de la santé, des formateurs d'infirmiers en particulier, et des formateurs du secteur social et de l'éducation populaire. Voilà. Si je vous dis ça, c'est pas seulement pour faire de la pub pour mon ESP, mais c'est aussi parce que cette volonté de travailler en transversalité entre l'enseignement, la santé, le social, l'éducation populaire, c'est une orientation à laquelle je tiens énormément, à laquelle je travaille de façon, je dirais, assez militante dans mon établissement. Et dans mon laboratoire, donc mon laboratoire, c'est le laboratoire Emma, c'est le même que celui de Philippe Bongrand que vous avez vu lundi, école mutation apprentissage. Et donc au sein de ce laboratoire, je travaille particulièrement dans ce qu'on appelle nous un chantier. Vous voyez, j'ai croisé le mouvement Freinet il y a un certain temps, un chantier donc intitulé ESAT, éducation, santé, sociale, animation, territoire. Bon, ça fait un peu collection comme ça quand on les met bout à bout, mais en fait ça signifie qu'il s'agit de travailler de problématiques, de questions qui ne sont pas des questions spécifiques, qui ne sont pas des questions réservées à l'enseignement. Voilà. J'insiste un petit peu lourdement là-dessus en introduction parce que vous allez voir que ça va être quelque chose qui va revenir dans tout mon propos. Je pense qu'on ne peut pas penser les relations école-famille. On ne peut pas les penser, tout court. On ne peut pas les penser si on ne les pense qu'à partir de l'école. Voilà. Alors, je sais qu'il y a parmi vous des gens qui travaillent en éducation prioritaire, etc. Donc, je prêche sans doute des convaincus. Mais entre le fait d'être convaincu et le fait de parvenir à monter des dispositifs qui intègrent des partenaires, des professionnels, des différentes institutions, c'est une autre paire de manches. Moi, je constate avec une grande régularité que malgré toute la bonne volonté du monde, eh bien, très souvent, les dispositifs, les formations, les analyses de pratiques, etc., ça continue à se faire en vase clos, entre gens de l'éducation nationale qui pleurnichent sur le fait d'être toujours ensemble et qui en même temps sont très très bien finalement dans cette sorte de petit cocon, parce que comme ça on peut regarder les autres d'un petit peu loin et puis voilà. C'est vrai que ça suppose souvent de casser des fonctionnements, de casser des routines, de brusquer des chaînes hiérarchiques si on veut réussir à monter ces dispositifs transversaux. Voilà. Alors, pour que vous compreniez peut-être aussi un peu mieux comment je vois les choses, je dirais, et pourquoi je tiens le discours que je tiens, je vous donne quelques, sans faire dans l'autobiographie, mais peut-être quelques éléments de mon parcours. Je me suis préparé à cette rencontre d'aujourd'hui, je dirais, plutôt dans le registre, enfin mon idée c'est d'être plutôt dans le registre du partage d'expérience d'une certaine façon. On est entre formateurs, entre accompagnateurs divers et variés. Donc, je ne vais pas m'amuser à vous faire un cours magistral, etc., petit A, petit B, etc. Ceci dit, évidemment, on ne se refait pas. Donc, j'ai quand même prévu un certain déroulé qui a sa logique et qui va essayer de vous présenter un certain nombre de points que j'ai préalablement identifiés. Voilà. Moi, dans mon parcours, j'ai d'abord été instituteur, formé en école normale, et école normale d'instituteur, pas école normale supérieure. En école normale, dans les années 80, ça ne nous rajeunit pas. Et ensuite, j'ai beaucoup travaillé, voire exclusivement en éducation prioritaire, et puis dans l'enseignement spécialisé, en classe de perfectionnement, pour ceux qui savent encore ce que c'était. Hein, on parle d'un monde révolu, et puis en réseau d'aide. Voilà. J'ai échappé au gap, c'était juste au moment où j'étais en classe de perf, les gap, groupe, je ne sais même plus ce que ça veut dire. Voilà, merci, il y a les deux P, psychopédagogique, ont fermé l'année entre mon année de perf et l'année où je suis revenu en réseau d'aide. Vous voyez, ça aussi, ce sont des éléments qui sont des éléments autobiographiques, mais je pense que sans être insultant, un certain nombre des présents ici doivent être à peu près dans mes âges, je dirais. Donc, vous avez vécu aussi ces évolutions et transformations institutionnelles, et c'est extrêmement important d'inscrire, de penser, je dirais, les questions qui nous intéressent. Au regard de ces évolutions institutionnelles que pour certains d'entre nous, nous avons vécues, et puis d'autres arrivent après et c'est déjà de l'histoire pour eux, quand on leur parle de gap, ils ont vu ça dans les livres d'histoire, les classes de perfectionnement aussi, mais finalement, il faut interroger les vieux pour savoir de quoi il était question. Ou bien on fait comme si c'était la même chose. La perf, finalement, c'est la même chose que la CLIS. Le GAP, c'est la même chose que le RAZ. Et pas du tout, en fait. Voilà. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Et donc, ces évolutions institutionnelles qu'on peut vivre à différentes places, c'est particulièrement important dès qu'il s'agit de penser les relations entre l'école et les parents, ou l'école et les familles. Pourquoi ? Parce que vous voyez bien que si déjà nous, enseignants, ou qui avons été enseignants, nous avons déjà du mal à suivre, à garder la mémoire de ces différentes étapes, de ces différentes dénominations. Comment voulez-vous que des parents qui ont fait leur scolarité il y a 20, 30 ans, peut-être, pour certains, s'y retrouvent lorsqu'ils reviennent avec des enfants de différentes générations, puisque parfois les mêmes parents peuvent avoir des enfants qui peuvent être assez espacés dans le temps également. Donc ça c'est un premier point, c'est qu'on a très souvent finalement avec eux une sorte de discours de l'allant de soi. On s'étonne que quand même ils ne sachent pas ce que c'est que ceci, ce que c'est que cela. Sauf que ça ne correspond pas à leur expérience. Voilà. Et très souvent, les enseignants sont eux-mêmes un peu paumés, il faut bien le dire, dans ces différentes évolutions. Alors, ce matin, donc, je voudrais, à la suite de cette petite introduction, vous parler à ma manière, je dirais, qui va être différente de celle de Philippe, vous allez vite le voir. Vous parlez de ce que j'appellerais moi les enjeux politiques et institutionnels des relations famille-institution. Et tout de suite, j'élargis, vous voyez, je ne suis pas uniquement dans la question école-famille, puisque je continue à dire que pour penser la question école-famille, il faut penser un peu plus large. Donc je parle de famille-institution ou parents-institution. Ensuite, je voudrais vous parler un peu de questions qui peuvent peut-être vous paraître au premier abord un peu éloignées de vos préoccupations, mais je pense que vous allez assez vite voir qu'en tant que concepteur et organisateur de formation, ce sont des questions qui vous concernent assez directement. C'est ce que nous appelons la question épistémologique. c'est-à-dire comment produit-on des connaissances que ensuite vous allez retrouver dans des publications, que vous allez utiliser comme support pour vos formations. Hein. Eh bien, comment est-ce que les chercheurs produisent ces connaissances sur les relations famille, institution, et quelles questions ils ont à se poser, et voire même, je dirais souvent, quelles questions ils ne se posent pas. Quelles questions, en tout cas, en tant que chercheurs, nous avons du mal peut-être à nous poser. Et je pense que c'est important que vous ayez un regard un peu critique là-dessus, parce que, bon, ça vous a probablement déjà été dit, je pense qu'il ne faut évidemment pas prendre pour argent comptant nos publications, il ne faut pas trop nous croire non plus, c'est-à-dire que nos publications, nos articles, etc., ce sont toujours des travaux et des publications qui adoptent un certain point de vue, qui adoptent une certaine approche, qui sont orientées par certaines préoccupations et qui ne sont pas, pour faire simple, vraies toujours et tout le temps. Voilà. Donc il faut que vous ayez toujours en tant que formateur, enfin... Et là, je vous parle comme prof aussi, ce regard critique sur les connaissances produites, les lectures que vous pouvez faire et l'usage que vous pouvez être amené à en faire. Et donc, ça, c'est aussi, pour moi, en tout cas, en tant que formateur, c'est quelque chose qui me préoccupe toujours beaucoup. C'est toujours de m'assurer que les étudiants, les professionnels, etc., avec lesquels je travaille, ne repartent pas en pensant qu'ils viennent d'entendre une vérité vraie, je dirais, universelle, et puis, eh bien, ils vont répandre la bonne parole. Voilà. Heureusement, ça ne fonctionne pas comme ça. Alors, j'en arriverai ensuite à vous parler de quelques notions que vous pouvez retrouver dans certaines de mes publications, et puis en particulier pour en arriver à ces questions, enfin quelque chose qui moi m'intéresse beaucoup, c'était présent dans le titre, c'est ces questions de résistance, hein, de résistance des parents aux dispositifs que l'on peut mettre en place pour les... Alors, qu'est-ce qu'on dit pour les impliquer, parfois on dit pour les faire participer, etc. Et puis les effets souvent assez imprévus que ces dispositifs peuvent avoir. Et là encore, je crois qu'il faut un peu élargir le regard j'essaierai de plaider pour que vous ne regardiez pas, que vous n'évaluiez pas, c'est difficile à dire, les dispositifs que mettent en place... en particulier les enseignants, au seul regard des effets qu'ils en attendaient. Alors ça, c'est quelque chose qui me tient aussi beaucoup à cœur. Si certains ont jeté un œil sur l'article dans Éducation et Société, vous avez déjà vu que c'est quelque chose qui me semble assez important. Alors, revenir donc sur cette question... je vais essayer de suivre le temps en même temps, revenir sur ces questions de politique de la parentalité, ce que moi j'appelle une politique de la parentalité. Et dans cette politique de la parentalité, j'inclus, vous voyez, c'est comme une armoire à tiroirs, j'inclus la question des relations école-famille. C'est un choix. Hein. Certains collègues qui travaillent sur la parentalité ne s'intéressent jamais aux relations école-famille. Voilà. Parce que dans la manière dont fonctionne la recherche, il y a souvent des compartiments, hein, une sorte de des compartiments étanches. Il y a par exemple les chercheurs qui travaillent sur le secteur social et médico-social, la protection de l'enfance, etc. Et eux travaillent la parentalité d'une certaine manière. Ils parlent de suppléance familiale, etc. Et puis, il y a des chercheurs qui sont spécialisés sur les questions scolaires et qui ne voient que les relations école-famille. Moi, mon objectif, je dirais, et c'est ce que j'essaye de faire, y compris dans mes encadrements doctoraux, dans mes encadrements de recherche, etc., c'est que les chercheurs se coltinent ces questions des relations famille-institution en prenant en compte ce qui se passe dans l'institution d'à côté et les recherches produites à propos des institutions d'à côté. et c'est pas si difficile à faire que cela. Mais c'est un peu complexe parfois au niveau du montage de dispositifs de recherche. Alors, depuis, je crois que ça vous a été dit par Philippe qui m'a transmis son PowerPoint, donc je vois de quoi il vous a parlé. Moi, je laisserai tout ce qu'il vous a dit jusqu'aux années 2000. Je vais reprendre le fil à partir des années 2000. À partir des années 2000, il y a vraiment, alors en France, mais pas seulement, vous l'avez compris avec ce qu'il vous a dit, il y a vraiment un changement politique, un changement institutionnel assez net, qui concerne le système scolaire en France, mais qui concerne aussi, et si on reste en France, l'ensemble des institutions sociales, médico-sociales, sanitaires. Ce changement extrêmement important dans les années 2000, c'est un changement qui n'a pas grand-chose à voir avec strictement la parentalité ou les relations école-famille. Et pourtant, c'est un changement qui va impacter très fortement les relations école-famille. Cette évolution, enfin ce qui se passe donc dans le début de ces années 2000, eh ben c'est plusieurs. Il y a vraiment plusieurs facteurs, il y a plusieurs phénomènes qui y concourent. On va voir au final émerger ce qu'on va donc constituer comme parentalité, comme politique de la parentalité. Est-ce que vous avez déjà entendu probablement parler du rapport Ouzel ? Ouzel, H-O-U-Z. Alors, vous voyez, bel exemple de compartimentage. C'est extrêmement important que vous regardiez ça. Ouzel, H-O-U-Z-E-L. C'est un psychiatre. Alors, vous allez me dire, les psychiatres, qu'est-ce qu'on a à faire des psychiatres ? Bon. Ce psychiatre, il a piloté une commission qui a posé les bases, je dirais, opératoires de ce qui va devenir la politique de la parentalité en France. Hein ? Et je crois qu'on ne peut pas vraiment comprendre ce qui se passe dans les relations école-famille si on ne voit pas ça. Qu'est-ce que c'est la parentalité ? Pour simplifier un petit peu, mais je suis pas très loin d'une définition à peu près correcte, la parentalité, ce sont les manières d'être parent. Ça paraît simple comme ça, comme énoncé. Les manières d'être parent. Ces manières d'être parent, ça inclut donc des questions d'éducation, ça inclut des questions de soins, hein, de préoccupation à l'enfant. Ça correspond à des pratiques, hein, des pratiques de nursing, comme on dit parfois, des pratiques d'éducation, mais ça renvoie aussi à des visées. Hein. C'est-à-dire, lorsque vous êtes parent, lorsque vous éduquez vos enfants, vous ne vous contentez pas de les... De vous en occuper, je dirais, matériellement, techniquement, de les nourrir, de les soigner, etc. Certes, ça occupe beaucoup, ça prend du temps, mais tout ça est organisé par une visée. Vous voulez les emmener quelque part, je dirais, pour faire simple. Alors, ces visées, ben, vous savez, c'est souvent là-dessus, d'ailleurs, qu'il y a un petit peu tension entre l'école et certains parents. Vers où on va ? Et donc, comment il faut faire aujourd'hui pour aller quelque part ? Pour aller où ? Et il y a bien souvent un lien entre les deux. Et bien souvent, les enseignants, mais comme les travailleurs sociaux, comme les médecins, comme tous ces professionnels, lorsqu'il y a des tensions, lorsqu'il y a des conflits avec les familles et avec les parents, si vous regardez bien dans le détail, c'est souvent moins des questions pratiques, matérielles, il faut qu'il se lave, il faut qu'il se lève, il faut lire quelque chose avant de s'endormir, etc., etc. Mais ce qu'il y a derrière ça, c'est la conception même de l'éducation. Pourquoi ? Vers quoi ? Vers quoi ça va ? Qu'est-ce qui est souhaitable ? Qu'est-ce qui est désirable pour l'enfant ? Et d'ailleurs, bien évidemment, souvent, on bute ensuite sur des questions d'orientation. Et là, c'est des questions sensibles quand même, ces questions d'orientation. Alors donc, parentalité, je dis manière d'être parent. Si vous regardez le rapport Ouzel, vous allez voir que ça se décline, et ça se décline dans des éléments qui ensuite ont été repris pour construire les politiques et des dispositifs d'appui à la parentalité. Avez-vous déjà ça, les gens qui sont en éducation prioritaire ont peut-être sûrement entendu, vous avez déjà entendu parler des REAP. Ah, bon, voilà. Les REAP, hein, donc les réseaux d'écoute, d'appui et d'accompagnement aux parents. Ces REAP, c'est intéressant parce que ce sont justement des dispositifs transinstitutionnels. C'est-à-dire que vous pouvez en retrouver des éléments dans les différentes institutions que j'ai citées. Hein. Le dispositif REAP, qui commence par réseau, donc vous voyez, la volonté c'est justement de mettre en réseau, en réalité c'est surtout un dispositif de financement. Hein. C'est surtout un dispositif de financement. Si vous cherchez des informations sur les REAP, vous allez souvent voir des bilans. Alors vous allez voir des bilans départementaux faits par les caisses d'allocation familiale, etc., etc., qui évaluent finalement les actions qui ont été financées dans ce cadre. Bon. Alors c'est un peu, vous voyez, je vais souvent, vous allez voir, je suis assez matérialiste, hein, donc je vais souvent vous ramener à des questions d'argent, à des questions pratiques, à des questions matérielles. Hein. Quand on est formateur, on sait bien que pour monter une formation, on ne le fait pas seulement avec des idées. Hein. Il faut aussi un peu d'argent, des espaces, du temps, etc. Ces questions donc de politique de la parentalité vont trouver des outils, en particulier avec ces REAP. On peut se poser la question de savoir si la politique de la parentalité remplace ou non, ou prend suite, de ce qu'on appelle en France la politique de la famille. Je ne sais pas si c'est des questions que vous êtes déjà posées. Il y a une question importante, et j'ai vu dans, je pense que avec Philippe vous en avez dit deux, trois mots, c'est est-ce qu'on parle de famille ou est-ce qu'on parle de parents, hein? Bon. Je pense que vous connaissez ce texte de Dominique Glassman. On vous l'a cité déjà, le texte de 92. Non ? Bon, bah alors je vous le donne. Donc c'est un texte de 1992 de Dominique Glassman. C'est un collègue de votre région d'ailleurs, qui était d'abord à Saint-Étienne et qui a fini sa carrière à Grenoble ensuite. Certains l'ont connu. Oui. Dominique, je crois que c'était en 92, a publié un article dans la Revue française de pédagogie, dans lequel pour lui, c'était pas central en fait. C'était un peu une constatation qu'il faisait en se promenant sur les terrains de l'éducation prioritaire où il a beaucoup travaillé. Et il avait remarqué que les enseignants avaient un usage différencié du mot parent et du mot famille. Les parents, alors vous allez me dire, bah, c'est à peu près la même chose. Dans les familles, il y a des parents. Bon, certes, sauf que, et peut-être que ceux qui travaillent dans l'éducation prioritaire, vous l'avez constaté, parce que moi je l'entends encore aujourd'hui, pour parler de certaines familles, justement, on dit famille, et pour parler d'autres familles, on dit parents. Et la différence entre les deux usages, eh bien, elle est assez nette. Et je peux vous dire que si vous allez à Gennevilliers, moi je travaille beaucoup à Gennevilliers, c'est là on a notre laboratoire et je travaille avec la ville, à Gennevilliers il y a des familles. À Neuilly-sur-Seine il y a des parents. Voilà. Quand j'ai dit ça, vous avez déjà un peu compris quelque chose. Et il y a donc des villes, il y a des écoles, il y a des collèges, il y a des lycées, dans lesquels il y a et des familles et des parents. Et plus vous allez vers le lycée, plus il y a des parents. Voilà. Et plus il y a des parents insistants, plus il y a des parents qui se mêlent des affaires des enseignants, qui se mêlent de nos oignons, en d'autres termes. La famille, c'est plus un ensemble un peu indéterminé, on ne sait pas trop bien, hein. Et d'ailleurs souvent les enseignants se plaignent parce qu'ils n'arrivent pas à voir les parents, ils ont affaire qu'à la famille et ils ne savent pas trop comment l'attraper. Hein. Alors il y a ce... on entend d'ailleurs sur les mêmes territoires, parfois en se gargarisant un peu, cette expression, ce proverbe soi-disant africain, il faut tout un village, etc. Vous la connaissez. Cette jolie expression est extrêmement stigmatisante. C'est une expression extrêmement stigmatisante parce qu'elle renvoie cette idée, vous voyez, qui est marquée culturellement, justement, que... Eh bien, certains enfants vivent dans un ensemble relativement indéterminé, confus, etc. Mais tout ça, c'est joli, c'est beau, c'est exotique. Voilà. Alors que d'autres, eh bien, les parents, ils sont là, ils sont aux affaires, ils sont bien identifiés, ils savent ce qu'ils veulent. Ils sont parfois un peu embêtants, mais en même temps, ce sont des interlocuteurs. Donc ça, c'est quelque chose que Glassman pointait dès le début des années 90. Peut-être faut l'avoir en tête quand on se pose la question de savoir si on est dans une politique de la famille ou une politique de la parentalité. Politique de la famille, vous savez, en France, c'est quelque chose d'important. C'est quelque chose dont on est très fier, tout gouvernement confondu, parce que c'est ce qui fait, dit-on, qu'on arrive à soutenir un taux de natalité important. Très important, par rapport à l'ensemble des pays occidentaux, etc. Bien. On pouvait se demander si donc désormais la parentalité allait remplacer la famille. Je crois qu'aujourd'hui on peut dire que pas du tout. Ça reste deux politiques tout à fait différentes. La politique de la famille continue à être d'abord nataliste, c'est ça son objectif. La politique de la parentalité, c'est autre chose. Et la politique de la parentalité, elle se décline donc évidemment différemment selon les institutions. Dans le social, le médico-social, vous avez un certain nombre de travaux qui montrent comment cette politique de la parentalité, je le fais un peu à la hache, hein, on peut considérer qu'elle renforce le contrôle sur les familles les plus en difficulté. Voilà. C'est-à-dire ce sont des formes plus élaborées de contrôle social. Pourquoi plus élaborées ? Parce que on n'est plus dans des formes traditionnelles de contrôle social dans lesquelles on impose directement aux familles un certain nombre de choses, mais désormais, il faut que ces familles soient non seulement consentantes, mais demandeuses. C'est-à-dire qu'il faut qu'elles soient demandeuses de contrôle, pour dire ça très rapidement. Donc un peu de façon un peu caricaturale, évidemment. Là, je vous renvoie à des travaux comme ceux de Gérard Nérand. Par exemple, le titre de son livre, Soutenir et contrôler les parents. Voilà, c'est clair, c'est les deux à la fois. Hein. Ou un bouquin de Manuel Boucher, Gouverner les familles. Et dans Gouverner les familles, il montre bien comment la parentalité déploie un dispositif, je dirais, assez. Un maillage, vous voyez, assez important, justement, pour à la fois capter des informations sur les pratiques familiales, les pratiques presque intimes, je dirais, des familles, et s'assurer de leur adhésion à des visées, justement, qui ne sont pas forcément toujours les leurs, du moins au départ. Alors, ces questions arrivent aussi dans le monde scolaire. Hein, c'est-à-dire dès que l'on observe dans le détail le fonctionnement de ces dispositifs, c'est exactement ce que l'on perçoit. C'est d'ailleurs ce que disent les professionnels. Alors les professionnels, qu'est-ce qu'ils disent ? Moi je fais beaucoup d'analyses de pratique, etc. Donc on a accès au quotidien du professionnel. Et les professionnels expliquent très bien le dilemme qui est le leur, au jour le jour. C'est-à-dire d'un côté on me demande d'être en partenariat, vous voyez, il y a tout un vocabulaire, hein, d'être à l'écoute, d'être avec, d'être auprès d'eux, de soutenir, etc. Et puis d'un autre côté, on me demande aussi dans le même temps d'orienter vers, de faire en sorte que, d'amener les parents à, etc., etc. Et bien souvent, quand on est dans le social et dans le médico-social, c'est aussi le professionnel qui va, par exemple, faire le rapport qui va permettre que la famille obtienne ceci ou échappe à cela. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, le même professionnel se retrouve lui-même, dans sa pratique quotidienne, traversé par ces différents objectifs qu'il peut trouver contraires. Je dis qu'il peut trouver contraires, parce que après, bah, ils apprennent à faire avec, justement. Hein. Et si je vous parle de ça, vous pouvez considérer que c'est le social, le médico-social, tout ça, c'est ailleurs. Eh bien, il me semble que peut-être ça vous parle un peu aussi pour l'école. Parce que on en arrive un peu là, dans le monde scolaire. Hein. Moi, il y a une date qui me semble importante, je ne sais pas si ce serait la même pour vous, c'est 2006, le rapport et la circulaire Varzé sur la place et le rôle des parents à l'école. Est-ce que c'est encore une circulaire qui est dans vos têtes, qui vous dit quelque chose? Ou est-ce que déjà le temps a fait son œuvre, 2006, c'est quasiment la période glaciaire? Alors, Varzé, c'était un inspecteur général. Hein, en général, ses rapports sont pilotés par les inspecteurs généraux. Il mène donc une évaluation. Il fait un rapport, il mène une évaluation de la situation des relations entre l'école et la famille, et il fait un certain nombre de préconisations. Et ce qui est intéressant, mais ceux qui ont un peu de bouteille savent que c'est souvent le cas, avant même que le rapport ne sorte, la circulaire sort. Et la circulaire reprend les conclusions du rapport Varzé avant même que celui-ci ne soit publié. Bon, c'est toujours des petites choses un peu anecdotiques, mais c'est intéressant de l'avoir à l'esprit, parce qu'on comprend mieux le fonctionnement de la mécanique institutionnelle aussi. Et dans ces recommandations, il s'agit d'inciter les établissements scolaires, par exemple, à permettre que les associations de parents disposent de locaux dans l'enceinte scolaire. Et ça, c'est quelque chose, c'est un point qui a fait vraiment débat, dans les collèges en particulier, dans les lycées. Pourquoi ? Pour des raisons qui sont aussi assez matérielles. Où est-ce qu'on va la mettre, cette salle ? À côté de quelle autre salle ? Est-ce que le prof d'histoire qui fait son cours le matin de 9h à 10h, dans la salle d'à côté, il va y avoir une réunion des parents ? Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, évidemment, pour un certain nombre d'établissements scolaires, il y avait l'idée que cette entrée matérialisée, c'est-à-dire un local où ils vont venir... Donc, ces parents vont du coup circuler librement dans l'établissement. Ils vont se retrouver là au moment où les élèves vont descendre et remonter de récréation, changer de cours. Ils vont entendre le chahut dans la classe d'à côté, etc. Bon. Et bien, autour de cette simple disposition qui peut paraître assez banale et anecdotique, qui est absolument ordinaire dans de nombreux pays européens, dans le cadre français de nos établissements scolaires tels qu'ils fonctionnent habituellement, ça va pas de soi. Ça va tellement pas de soi que je n'ai pas vu beaucoup d'établissements scolaires dans lesquels c'était réellement réalisé encore aujourd'hui. Je sais pas, et vous ? Bon, pas beaucoup non plus. Voilà. Et quand ça se réalise, on s'arrange pour que ce soit plutôt une salle près de la direction, qui ne soit pas au contact direct des classes dans lesquelles il y a des élèves et des profs, pour faire simple. Cette circulaire Varzé, donc, sur le rôle et la place des parents à l'école, incite les établissements donc à prendre en compte les parents, par exemple, peut-être à prendre en compte le fait qu'il y a des parents séparés. Vous savez, c'est de cette époque-là que date le fait que le vote des parents aux élections, lorsque la famille, justement, il n'y a plus un vote par famille, mais un vote par parent. Voilà. C'est ce genre de choses. Ça prend en compte ce genre de choses qui ne simplifient pas la vie des établissements. Ou bien le fait que les bulletins scolaires doivent arriver aux deux parents et que le chef d'établissement doit s'en assurer. Même chose, voyez, c'est des choses de bon sens, mais c'est des choses qui, dans la routine ordinaire, etc., sont quand même assez complexes. Parce que là, du coup, on est obligé d'identifier les parents. On ne peut pas se contenter d'envoyer. Même chose pour les absences, etc. Un père séparé qui habite à 300 km peut reprocher au chef d'établissement de ne pas l'avoir informé des absences de son fils, qui vit en permanence avec sa mère. Donc, l'école doit obligatoirement entrer dans la vie privée, je dirais, des familles, doit être au point sur le statut matrimonial, sur les droits des deux parents, etc. Donc, ça fait entrer les établissements dans des considérations dont, souvent, ils se seraient bien passés. Sinon, ils risquent d'être pris en défaut de responsabilité, etc. Donc, ici, c'est ce qu'on pourrait appeler des avancées. Vous voyez, pour un certain nombre de parents, pour les associations représentatives des parents, en particulier la FCPE, la PEP. C'est ce que je viens de vous dire, ce sont des avancées, ce sont des progrès. D'accord ? Ce sont des conquêtes, même. Ceci dit, vous connaissez la sociologie de la FCPE et de la PEP. D'accord ? Vous savez qui sont les parents. Moi, je suis à la FCPE, par exemple. Une grande partie d'entre vous aussi, sans doute. C'est normal pour un instituteur. Je ne me suis jamais posé la question. Quand mes enfants sont entrés à l'école, j'ai pris ma carte à la FCPE, évidemment. Hein, évidemment. MGEN, MAIF, FCPE. C'est le PAC. Voilà. Ça vous fait... CASDEN. Bien sûr, CASDEN. Merci, j'allais oublier la CASDEN. Voilà. Toutes ces choses tellement évidentes pour ma génération, beaucoup moins évidentes pour les PE que je vois arriver aujourd'hui, etc., et qui se demandent quelle mutuelle ils vont prendre, est-ce que oui, est-ce que non, est-ce qu'ils vont se syndiquer ou pas. Quelle question. Moi, je ne me suis jamais posé de la question de savoir si j'allais me syndiquer, c'est tellement évident. Bon. Bref, la question à la rigueur, c'était dans quel syndicat, mais est-ce qu'on va se syndiquer? Alors là, vraiment... Bon. Bref, vous voyez comme ça change vite les choses, hein, quand même. Pourquoi est-ce que je vous parle de la sociologie des associations de parents? Vous me voyez venir avec mes gros sabots. C'est que ces associations de parents font du lobbying, évidemment, c'est leur rôle, c'est normal, sinon elles ne servent à rien. Hein. Elles font du lobbying pour obtenir des droits pour les parents, pour obtenir de l'information, de la transparence, pour obtenir même ce qu'elles appellent le dernier mot. Le dernier mot dans l'orientation des enfants. Bon. Alors, je vais vous raconter une anecdote à ce propos. Ça, c'est assez récent. La refondation, ce mouvement avec Payon, etc., la refondation de l'école. D'accord ? Été 2000... j'ai du mal. 13 ? Voilà, je me trompe toujours. Été 2013. Je devrais m'en souvenir, puisque j'ai animé... Dans ce dispositif de la refondation, j'ai animé l'atelier national où on travaillait sur les relations école-famille. Donc, dans la salle, j'avais la FCPE, la PEP, les syndicats enseignants, toute une collection d'organisations et aussi ATD Quart-Monde. Et puis, quelques autres groupes qui avaient réussi à forcer la porte et à être là. Bon. Donc il s'agissait de reprendre finalement cette question des relations entre l'institution scolaire et les parents ou les familles, vous prenez ça. Et la discussion est très vite arrivée sur cette question, sur deux questions en fait. Le dernier mot aux parents dans l'orientation des enfants, première chose. Deuxième chose, un statut pour les délégués de parents. Qu'est-ce que c'est ces deux choses? Vous voyez ce que c'est le statut pour les délégués de parents? C'est pour qu'ils puissent s'absenter de leur boulot, par exemple, tout en étant payés, etc. Bon. Quand il y a des réunions, que les enseignants ont toujours la bonne idée de mettre sur en journée. Donc on est obligé de s'absenter de son boulot. Ces deux revendications, fortement portées par les deux grosses associations. Bien. La discussion tourne. Les syndicats enseignants, pas trop chauds sur la question du dernier mot à l'orientation. Hein. Il y a en particulier le SNES FSU qui était là, qui se tenait à sa chaise, qui n'osait pas trop y aller, mais etc. Bon. Qui essayait de voir comment ils allaient faire pour ne pas se laisser embarquer dans cette affaire, sans dire pour autant que c'était un peu compliqué. C'était un peu compliqué pour eux, je le reconnais. Bon, et puis... Finalement, une sorte de consensus mou a l'air de se mettre en place autour de « oui, il faudrait que le poids de la parole des parents, etc., soit mieux considéré. Bon. » Et puis, à un moment, il y a le représentant d'ATD Quart-Monde qui craque et qui dit « on n'en a rien à faire ». Non seulement on n'en a rien à faire de cette question, mais ça suffit comme ça. Les enseignants... Enfin, l'éducation nationale, plus précisément, l'éducation nationale ne cesse de reporter la responsabilité de l'échec de nos enfants sur nos épaules. Les enseignants sont encore un peu responsables de l'orientation des choix qui sont faits des enfants, pour les familles que nous représentons, nous ne souhaitons pas qu'on leur colle ce poids supplémentaire sur le dos. Voilà. Et là, c'est clair, si vous voulez. C'est-à-dire que cette revendication du dernier mot, cette revendication de pouvoir peser, d'être représenté, etc., etc., ce sont des préoccupations de parents qui, sociologiquement, appartiennent aux classes moyennes et supérieures, qui, à travers cela, se dotent des outils pour accompagner au plus près et plus efficacement la scolarité de leurs enfants. Pour ceux à qui il manque, je dirais, là je dis ça, qui manque, parce que c'est ce que disent aussi ATD ou un certain nombre de mouvements de ce type, qui n'ont pas accès à l'intérieur, qui n'ont pas accès à l'intime fonctionnement institutionnel de l'école, eh bien c'est un poids de plus. Voilà, c'est une responsabilisation supplémentaire. Et cette anecdote, elle est pour moi assez représentative finalement de ce qui se joue, des relations école-parent. Qui demande quoi ? Qui l'impose à qui ? Dans quelles circonstances ? Et comment est-ce que chacun peut s'en emparer ? C'est-à-dire qu'il faut bien voir que des droits conquis par des parents, pour certains parents, ce sont des outils qui vont rendre encore plus efficace leur démarche parentale, et pour d'autres, ce sont des contraintes, des obligations qui vont peser encore davantage et qui vont faire finalement qu'ils vont se sentir à certains moments encore plus abandonnés, face à des enseignants qui vont leur dire, en tout cas, ils ne vont pas leur dire comme ça bien entendu, mais les parents me disent qu'ils le comprennent comme ça, c'est votre problème. Si votre enfant échoue, c'est votre problème, vous n'avez pas fait les bons choix. Voilà, vous ne faites pas les bons choix. Je ne dis pas que ce sont les enseignants qui le disent. Je dis que les parents que je rencontre, les groupes de parents, des groupes de RSA, les groupes de parents qui sont dans les quartiers où je me trimballe, qui sont en particulier des groupes de femmes, m'expliquent ça dans le détail et très très bien, comment elles ont l'impression d'être renvoyées comme des balles de ping-pong de l'un à l'autre, l'assistante sociale qui renvoie là, qui renvoie là, qui renvoie là, et finalement on n'arrête pas de leur dire qu'elles ont plein de droits. Sauf que le mode d'emploi de ces droits, eh bien voilà, et comment est-ce qu'on peut s'en sortir quand la journée est chronométrée, parce qu'il faut courir, aller chercher l'aide ici, quémander cela ailleurs, etc. Alors vous voyez, j'insiste un peu lourdement là-dessus, mais je crois que vraiment il faut faire attention de qui on parle, à qui on s'adresse, et quels sont les effets. Alors imprévu peut-être, là on peut déjà commencer à parler d'effets imprévus, de certains progrès, vous voyez, progrès, amélioration, etc., oui, peut-être, mais peut-être pas pour tous et tout le temps. Non, mais ce qui se passe, et ça on l'a vu, je ne sais pas si vous avez vu, on a publié en 2008, il y a un bouquin qui peut intéresser en particulier ceux d'entre vous qui travaillent dans le primaire et en éducation populaire, sous la direction de Martine Kheroubi. En 2008, un bouquin dont le titre est « Des parents dans l'école ». Voilà. C'était une recherche qu'on a menée à partir d'une commande de la Fondation de France. Au départ, c'était, vous savez, la Fondation avait créé un prix qu'elle appelait un prix école, qui récompensait avec 2000 euros des projets d'école un peu exemplaires, de collaboration, etc. Bon. 2 ans plus tard, avec une petite équipe, on est retourné dans ces écoles pour voir ce qui s'était passé. Est-ce que ça a des effets, etc. Et puis, on a aussi travaillé dans d'autres écoles. On ne voulait pas s'enfermer seulement dans ces écoles. On voulait voir ce qui se passait ailleurs aussi. Et donc, c'est là où j'en viens. Ce qu'on a observé, un phénomène assez intéressant, à Paris en particulier, parce qu'à Paris, c'est très net. À Paris, vous savez, il se passe ce qu'on appelle la gentrification de certains quartiers, la boboisation, on dit aujourd'hui. C'est-à-dire que des familles plutôt d'un niveau culturel, socioculturel relativement élevé, qui n'ont pas forcément des moyens énormes, des enseignants, des artistes, etc., achètent des logements dans des quartiers populaires, boboïsent le quartier, ça fait augmenter le prix du mètre carré, les familles populaires s'en vont, on rénove, etc. Bon, vous voyez le mécanisme. Quel est l'effet sur l'école ? L'effet sur l'école, c'est que les directeurs d'école de ces quartiers, qui, n'ont pas d'interlocuteurs, qui se plaignent, qui disent qu'ils n'arrivent pas, hein, bon bref, que le taux aux élections est très faible, le taux de participation aux élections est très faible, qu'il y a, que les sièges de représentants de parents ne sont pas occupés, etc., etc. Bon, subitement, ils voient arriver des gens qui se présentent aux élections. Ils voient arriver les associations de parents, etc. Ils sont super contents. Et donc, très rapidement, et ça nous on l'a vu à l'échelle de 2 ans, c'est ultra rapide ces phénomènes, ça bascule tout de suite. Très rapidement, vous avez, m'excuse, hein, je caricature et je boboïse un peu là, mais ces bobos qui subitement deviennent les interlocuteurs quasi uniques des directeurs d'école. Et quand le directeur d'école dit « les parents », quand il nous dit « les parents », il veut dire « c'est quelques parents bobos qui viennent d'arriver dans le quartier et qui en plus, quand on les interroge eux, ces parents nouveaux délégués, nouveaux arrivés, etc. » Ils sont formidables, hein, ces gens. C'est souvent la FCPE, d'ailleurs. Ils sont formidables, ils sont militants, ils disent « nous, on travaille pour les autres, on donne la parole à ceux qui ne l'ont pas, on s'implique dans le quartier. » Vous voyez, ils sont super, super intéressant. Puis quand on gratte un petit peu, ils finissent par dire « ouais, là, c'est génial, il y a de la mixité sociale, etc. etc. » Bon, mais pour le collège, voilà, pour le collège, quand même, il faut être responsable, etc., etc. Bon. Et donc, en fait, dès le primaire, ils mettent en place des mécanismes qui sont ceux de leur catégorie sociale, je dirais. Et eux-mêmes, très rapidement, finissent par avoir sur les autres parents, ceux qui ne viennent pas, soi-disant, qui ne s'intéressent pas, soi-disant, un discours très stigmatisant, qui est parfois encore plus stigmatisant que le discours des enseignants eux-mêmes. Vous voyez ? Et donc là, je ne sais pas si c'est ce que vous voulez dire, mais ça, on le voit à une vitesse, mais c'est spectaculaire. Et tout le monde est plein de bonne volonté. Tout le monde est plein de bonne volonté. Vous voyez, c'est ça qui est formidable. Et je vous assure qu'ils sont attachants, ces gens. Ils sont attachants. Oui, c'est ce qu'ils me disent. Ils sont d'accord avec moi, apparemment, à peu près. Oui, complètement. Voilà. C'est un bon observatoire sociologique, hein, ces quartiers. Oui ?
Il y en a aussi qui peuvent être mal intentionnés, quand on en connaît aussi.
C'est possible. Mais vous voyez, moi, je ne pars pas dans ces analyses en parlant de Jean Machiavelli. Non, on n'est pas là-dedans. On n'est pas en train de dire c'est des gentils et les méchants. Non, je vous assure que, et ils donnent de leur temps et ils y vont, quoi. Oui.
Souvent, ce qu'on constate, c'est que les parents qui adhèrent à ces associations de parents d'élèves ne reçoivent pas de formation. Donc ils y adhèrent parce que leur enfant est scolarisé dans l'établissement, mais souvent quand il y a des réunions, on leur donne des informations à transmettre aux autres parents de l'établissement, ils ne savent pas comment faire.
Ben, non seulement, oui, ils ne savent pas comment faire, comme vous dites, mais là-dessus, nous on a eu pas mal. Alors c'était déjà dans cette première recherche, mais après moi je l'ai retrouvé sur tous mes terrains. Ça aussi c'est un mécanisme. Alors là c'est évident chez vous avec la gentrification ultra rapide de certains quartiers, mais ailleurs on le trouve souvent avec un rythme plus lent ou différemment, etc. Mais ce que vous dites, moi je l'ai eu de la part de ces élus de parents. Certains sont dans des associations, d'autres pas. Vous savez, il y a beaucoup d'associations très locales. Hein, uniquement l'école de mon enfant, etc. Et puis on se fait notre petit collectif. Voilà. Eux sont encore plus coupés, finalement, d'informations un peu générales. Hein. Donc, ils peuvent être de très bonne volonté aussi, mais ils se plaignent beaucoup, ces parents-là. Nous, on le voit régulièrement dans nos entretiens. Ils se plaignent beaucoup de ne pas arriver à mobiliser les autres parents. Ils se plaignent beaucoup du fait que les autres parents ne leur transmettent pas des choses pour qu'ils puissent jouer leur rôle et les répercuter, etc. Vous voyez ? Et finalement, quand on va interroger ces autres parents, ce que disent ces autres parents, c'est que quand ils ont des vrais problèmes, bah, ils préfèrent aller s'adresser aux professionnels, à l'enseignant et au directeur d'école, qu'à un voisin du quartier qu'ils connaissent à peine, ou bien qui est d'un autre groupe, ou qui, etc. Hein? Donc, ce n'est pas seulement un problème de formation, je pense. Bien sûr, ça peut jouer, c'est évident. Ce n'est pas qu'un problème de formation, soit militante, soit de formation, de savoir comment ça marche, pourquoi on est là, etc. Mais là, il y a aussi quelque chose qui relève d'une réalité sociologique. Hein? C'est-à-dire que pourquoi est-ce que moi, parent, qui rencontre un certain nombre de difficultés, comment est-ce que je peux faire pour aller confier mes problèmes aux délégués de parents dont je pense souvent, un, qu'il a moins de problèmes que moi, et deux, qu'il a une relation de complicité avec l'école et avec les enseignants, etc. Vous voyez, c'est pas... Voilà, autant aller voir directement l'enseignant ou le directeur d'école. Hein. Donc c'est vrai que ces délégués, ils sont dans une position qui est très très compliquée. Très très compliquée. Hein. Bon, et d'une certaine façon, plus ils y mettent, vous voyez, du temps, de l'énergie, etc. Moi, j'ai l'impression souvent dans ce qu'ils nous disent que le fait que cette énergie mise, qui ne débouche pas forcément sur ce qu'ils souhaiteraient, eh bien, ça finit par se retourner et ils finissent par le reprocher aux autres parents, hein, qui méconnaissent leur action, qui ne se rendent pas compte de tout le temps. Moi, souvent, j'ai ça. Ils ne se rendent pas compte le temps qu'on y passe, on travaille pour eux, etc., etc. Donc, ils ont des discours encore plus durs sur les parents que les enseignants ne les ont, en fait. Oui.
Oui, moi, je vous rejoins tout à fait sur la difficulté donc à dialoguer entre parents d'élèves. Alors, moi, je suis chef d'établissement hein, de collège et de lycée, hein, de cité scolaire, comme on dit. D'autant plus que nous, quand on remarque un petit peu, quand on voit la typologie du parent d'élève, c'est très souvent un parent dont l'enfant réussit très bien à l'école.
Quand vous dites parent d'élève, c'est oui. Délégué de parents.
Voilà, délégué de parents, hein, dont la difficulté pour certains parents, effectivement, de s'adresser à leur homologue, dans la mesure où ses parents, ben, souvent, sont des parents qui ont des difficultés donc, avec leur enfant au niveau de la réussite scolaire, et que le parent qui va représenter les autres parents, souvent, eh bien, est parent d'enfants qui réussissent très bien à l'école.
Et alors ça, vous voyez, je voudrais à la fois le nuancer, et finalement, ça renforce ce que vous dites. C'est-à-dire, le nuancer, on ne peut pas dire... Enfin, par exemple, je vous disais, moi, je travaille beaucoup à Gennevilliers. Eh bien, à Gennevilliers, dans le quartier du Lut, etc., si certains connaissent, les délégués de parents ne sont pas des parents de classe moyenne et supérieure. Ce sont des parents ouvriers, ce sont des parents au chômage, etc. Mais malgré tout, ce que vous dites marche quand même, parce que ce sont des parents qui ont souvent, et Gennevilliers quand même, banlieue rouge, etc., ce sont des parents qui ont une expérience militante, qui sont souvent de familles communistes, bah, enfin, pour Gennevilliers par exemple, quand ils avaient un emploi, etc., qui étaient dans un milieu syndical, ils ont été formés à la CGT, etc. Bref, ce sont des gens, vous voyez, qui ont une vision du monde, une analyse, une lutte, etc. Et ces parents, ça fonctionne un peu pareil, finalement. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à comprendre que les autres se résignent. Enfin, en tout cas, c'est comme ça qu'ils l'interprètent. Hein. Et effectivement, ils investissent énormément sur l'école, ces parents-là. Pourtant, si vous regardez les statistiques, vous allez dire, bah, c'est des parents comme les autres. Ils sont au chômage comme les autres, ils sont de même catégorie sociale que les autres, etc. Mais ça ne suffit pas, ça. Si vous regardez un peu dans les histoires familiales, un peu dans les histoires personnelles, vous allez vous rendre compte qu'effectivement, ce n'est pas n'importe qui, etc., etc. Et ça produit les effets que vous dites. Et là, ça arrive à des choses qui peuvent être assez tendues. Hein. Devant l'école primaire ou maternelle le matin, quand il y a une mobilisation qui est tentée pour obtenir un poste d'enseignant, etc., ça discute dur. Hein. Ça discute dur et on ne se comprend pas forcément, même si on est objectivement dans les mêmes conditions de vie, et voisins de palier, etc. Hein. Oui,
ces écoles, enfin ce glissement de ces parents boboïsés, comme vous dites, vous le pensez systématique, parce que moi, enfin, sur Saint-Étienne, en tant que militant du réseau d'éducation sans frontières, j'ai souvent eu affaire à ce type d'école. Et au contraire, moi, je trouve une dynamique très, très positive au bout du compte, parce que c'est vrai que, enfin, au moins, de cette place-là, de militant du réseau d'éducation sans frontières, on a vraiment l'impression que ses parents entraînent la masse des autres parents qui est un peu plus en difficulté. Et je me dis, enfin, bon, vu de cette place, je me dis, c'est un modèle intéressant. Et au contraire, il faudrait qu'il y ait plus d'écoles de ce genre-là.
Oui. Alors, là, regardez un peu précisément. Alors, vous voyez, là, je vais encore vous faire part de mon expérience personnelle, je dirais. Je vous disais, j'étais enseignant dans le primaire. Enseignant dans le primaire, j'ai travaillé en particulier en éducation prioritaire et dans un quartier qui était extrêmement paupérisé, précarisé, etc. Bien, qui était alors dans les évaluations nationales, on décollait jamais. À l'époque, c'était 27 nationalités dans le quartier, c'était un petit quartier, hein, et il y avait 4 familles de nationalité française, je dis nationalité, hein, de nationalité française dans l'école, mes enfants et 2 délégués de parents FCPE, militants, qui avaient choisi de laisser leur enfant là. Voilà. Et à l'époque, ces parents, justement, était dans cette dynamique. Et sur le quartier, il y avait ce type de dynamique, etc. Et l'école elle-même, les enseignants se mélangeaient aussi avec ses parents. Enfin, il y avait toute cette dynamique. Et effectivement, c'est la représentation que j'en avais. J'étais dedans et c'est la représentation que j'en avais. Et puis ensuite, quand j'ai changé de place, quand je me suis mis à enquêter en tant que chercheur sur d'autres écoles, etc., etc., qu'on s'est mis avec Martine Kérubi, Pascal Garnier à interroger les parents aux différentes places. En fait, ce qu'on a remarqué, c'est que oui, il se peut que ces parents créent des dynamiques. Par exemple, je me souviens que dans mon école, on avait réussi, et on était très fiers de ça, à emmener quasiment tous les parents de l'école envahir la mairie. Vous voyez, on était très fiers de ça. En plus, c'était une mairie de droite, assez très à droite, etc. Enfin, vous imaginez toute l'histoire qu'on se raconte, quoi. Voilà, on était très fiers de nous. Voilà, on avait emmené tout le quartier, les mamans étaient venues avec leurs bébés, etc. Enfin, bon, bref. Sauf que quand je reconsidère cette expérience après coup, quand je me balade dans les autres quartiers, quand j'interroge les parents, etc., je me demandais, mais qu'est-ce qu'on a fait là ? C'est-à-dire, est-ce que vraiment on a fait un travail de, ce qu'on pourrait appeler, de conscientisation ? Est-ce que vraiment on a fait progresser la conscience que ces parents ont de la situation dans laquelle ils étaient, etc. Puisque finalement, on s'est substitué à eux. C'est-à-dire, on les a organisés, on les a conduits, on a construit leurs revendications, etc. Qu'est-ce qu'ils ont compris de tout ça, au final ? Vous voyez ? Et très souvent, ce que j'ai observé en interrogeant les parents, etc., c'est que, et aujourd'hui, j'en ai fait une sorte de principe presque mécanique. Hein, je le regrette, pour moi, c'est contre-intuitif. C'est totalement contre-intuitif avec ce que j'avais vécu comme enseignant, avec ce que je souhaitais réaliser, et comme enseignant, et comme parent d'élève, etc. C'est que l'engagement des uns créer l'éloignement des autres. Voilà. Et ça, c'est terrible. Alors, j'espère qu'un jour, je vais tomber sur une école, sur un endroit, sur un quartier, où je constaterai autre chose. Mais pour le moment, c'est qu'une question d'amplitude. Je n'ai jamais trouvé de situation dans lesquelles la tache d'huile, etc., fonctionne vraiment. C'est-à-dire où les places tournent. Où le parent qui au début n'y comprenait peut-être pas grand-chose, etc., se retrouve ensuite en première ligne, se retrouve à discuter avec le chef d'établissement, etc., etc. Jusqu'à présent, je ne l'ai pas vu. En tout cas, pas là. Après, et ça fait le lien avec ce que vous disiez, je l'ai vu ailleurs. Je l'ai vu dans l'éducation populaire, dans des centres sociaux, etc. Mais souvent, c'est pas forcément fait pour ça. Alors, il se peut qu'ensuite, les deux dynamiques se rejoignent. Les parents délégués, etc., sont aussi dans le centre social, dans l'association, et là, ils travaillent un peu autrement, et tout ça se rejoint. D'ailleurs, vous parlez de réseau Éducation sans frontières, c'est pas quelque chose qui est strictement une association de parents, pour le coup. Hein. Voilà, c'est quelque chose qui est évidemment plus large, qui a une vision, une analyse politique, qui mène un combat qui est bien plus large que la question des relations parents-enseignants. Après que ça ait des effets locaux, évidemment. Alors, bon, mais là, on entre, on est déjà bien dans le cœur de l'affaire, mais du coup, je vais me réorganiser. Ce que je voulais vous dire, un autre point, là, on a pris de l'avance et du retard en même temps, donc c'est pas grave. Quelque chose qui va vous sembler peut-être très étrange, c'est que, pour moi, cette question des relations école-parents, on ne peut pas tout à fait la déconnecter de la LOLF. Ouf. La loi organique des lois de finances. La LOLF, c'est quelque chose qui a quasiment le statut de constitution, c'est-à-dire c'est ce qui a réorganisé, au début des années 2000, comme par hasard, qui a réorganisé les finances publiques. Je ne vais pas vous faire un cours sur la LOLF. Il faut juste savoir que le principe de la LOLF, ce que ça change, c'est que, alors on était sous le gouvernement Sarkozy, avec tout un discours là-dessus, etc., mais c'est une évolution européenne, hein, de toute façon. Donc on n'y aurait pas échappé, quoi qu'il arrive, je pense. Cette LOLF, son principe, c'est un principe de rationalisation des dépenses. Hein. Je mets un euro dans une politique publique, qu'est-ce que ça donne comme effet? Qu'est-ce que ça rapporte? Voilà. Ce sont des principes d'entrepreneuriat, ça ne vous échappe pas. Hein. C'est une logique qui s'inscrit dans ce qu'on appelle le nouveau management public. C'est un courant mondial, je dirais anglo-saxon, mais qui s'est répandu de façon mondiale, et qui se décline dans la nouvelle gestion publique. Nouvelle gestion publique, qui réorganise la façon de gérer les services publics, dont l'école, les services sociaux, etc. Et ça se décline en programme. Et en action, eh bien, la politique de la parentalité rentre dans ce cadre-là. Quand on subventionne un café de parents dans un centre social, quand on subventionne une action dans un collège, dans un lycée, etc., la logique de la LOLF, c'est quel effet ça a, donc une évaluation, évidemment, et une évaluation à court terme. Et vous voyez venir le problème. Comment on évalue, à la fin de l'année budgétaire, l'effet d'une action d'appui à la parentalité. Réunir un groupe de mères semaine après semaine, etc. Est-ce qu'à la fin de l'année, on peut dire, voilà, ça a produit tel effet? Bon, vous comprenez. Donc, premièrement, là, il y a évidemment un souci. Mais deuxièmement, derrière tout ça, là, je vais très vite aussi, cette logique s'inscrit, qui est une logique, vous voyez, rationnelle, qui paraît logique... Tout ça paraît de bon sens, bien sûr, pour un comptable. Hein? Ben, pour un éducateur ou un travailleur social ou un enseignant, c'est un peu compliqué. Mais voilà, il faut faire avec. Et les chefs d'établissement, les directeurs de structure, ben, ils doivent bien se débrouiller avec ça quand même. Hein? Il y a cette question donc, des effets. Quel effet est-ce que ça peut produire? Quels effets sont attendus? Et du coup, c'est pour ça que je tiens tellement à cette idée d'effet imprévu. C'est que cette logique amène, lorsque vous concevez un dispositif, quel qu'il soit de tous les dispositifs dont vous pouvez parler, ça vous oblige en amont d'identifier les effets que vous voulez produire. Et il faut en amont que vous prévoyez ce qu'on appelle des indicateurs. Ça marche ou ça ne marche pas votre affaire? Et comment vous le faites pour le prouver? Évidemment, alors je disais ça la semaine dernière dans une journée d'études à Limoges et dans la salle, il y avait la directrice régionale de la cohésion sociale. Elle était, la pauvre femme, décontenancée. Elle disait, mais qu'est-ce que c'est que cet olubrius? Je disais, eh bien, les responsables de structures, de centres sociaux, de services, etc., falsifient. Bien entendu. Et ça, ils me racontent ça en long, en large et en travers, les directrices de crèches, etc. Qu'est-ce qu'ils falsifient? Ils font pas défaut dans les grandes largeurs, si vous voulez. Mais ils jouent un peu sur le nombre de présents à certaines réunions, parce qu'on leur demande ce genre de choses, la participation, bref. Ils se débrouillent pour être dans les clous. Mais ce qui est totalement paradoxal, c'est qu'ils font comme si ils se rapprochaient des effets prévus, mais ils sont totalement empêchés de renseigner les évaluations sur les effets auxquels eux tiennent, des effets d'éducation, des effets de changement d'ambiance dans le quartier, etc., mais que ça ne rentre pas dans les cases. Voyez ? Donc on est dans une sorte d'injonction très paradoxale. Mon dispositif, j'y crois, etc., ça produit des effets intéressants, je pourrais le montrer, mais ce n'est pas ça qu'on me demande. Ce qu'on me demande, c'est de rentrer dans les clous au bout d'un an, dans les grilles d'évaluation des réaps ou de je ne sais quoi. Voilà. Donc vous voyez le genre de soucis. Et si je vous en parle, ce n'est pas pour dénoncer les choses, c'est parce qu'en travaillant auprès des professionnels, ça, je vois comment ils doivent au jour le jour s'arranger de ces demandes contraires, s'arranger avec leur éthique professionnelle aussi. Vous voyez ? Lorsque, pour être un peu confortable avec le sens que je donne à mon travail, avec mon éthique professionnelle, je dois un peu contourner les choses, etc., etc., pour rester dans les clous, pour pouvoir financer ce à quoi je tiens. Mais c'est bon, bref, vous avez compris le genre de choses un petit peu compliquées. J'insiste là-dessus parce que très souvent, surtout pour l'école, c'est totalement hors champ. On s'occupe pas de ça. Ça paraît très très loin de nous, comme on n'a pas forcément besoin de négocier quelques euros, etc., etc. Ceci dit, vous voyez, c'est quand même une machine. Ça met en place une machine idéologique qui nous concerne tous. Voilà. Et après, il faut s'en débrouiller au quotidien. C'est sur ça que j'insiste. Alors, je vois que ça tourne, on a commencé à dialoguer, mais je voudrais, je vais faire deux prises. Je vous parlais d'épistémologie. Je vais sauter là. Hop. Je vous parlais de questions épistémologiques. Je voudrais vous dire une chose, c'est que je vous disais, méfiez-vous des publications, etc. Il y a un phénomène, et là je reparle de Glassman, j'aime beaucoup les travaux de Glassman, comme vous avez compris. Glassman, dans l'introduction d'un bouquin qui avait pour titre « La déscolarisation », donc sur les décrocheurs, etc., d'accord ? La déscolarisation. Dans cette introduction, il pointe ce qu'il appelle les effets de la désirabilité scolaire. Qu'est-ce que c'est la désirabilité scolaire ? C'est le fait que beaucoup de chercheurs eux-mêmes enseignants, qui ont souvent eux-mêmes été enseignants, etc., trouvent, souvent assez inconsciemment, désirable qu'un enfant poursuive sa scolarité le plus possible, le plus longtemps possible, etc., etc. Et donc, lorsqu'ils font des recherches, ça fabrique comme des œillères, si vous voulez, ils n'arrivent pas à voir toutes les autres solutions. Hein? Puisque les seules solutions qui vaillent vraiment, auxquelles ils croient vraiment, c'est poursuivre sa scolarité dans le circuit le plus ordinaire possible. Donc toutes les voies alternatives dans des systèmes divers et variés, ou carrément dehors, ça leur échappe. Ça sort des radars, si vous voulez, pour dire ça simplement. Hein? Et ça, c'est quelque chose auquel il faut faire attention. Et c'est pour ça, comme je le disais tout à l'heure, qu'il est tellement important de penser toutes ces questions, certes éducation nationale, mais aussi sociale, médico-sociale, etc. Parce que quand des jeunes sortent des radars de l'éducation nationale, ils peuvent apparaître dans d'autres radars, à la PJJ, je ne sais quel dispositif, dans je ne sais quelle association, dans l'éducation populaire, carrément ailleurs, dans des trafics divers et variés, donc dans les fichiers de police, voilà. Vous voyez, c'est pas parce qu'on disparaît de l'éducation nationale qu'on se désintègre. On continue à exister ailleurs. Et il est peut-être intéressant pour des recherches de comprendre ces parcours sans cesse être formaté par ils doivent continuer. Voilà. Vous voyez, il y a une différence entre les convictions qu'on peut avoir et ces convictions, à certains moments, elles peuvent empêcher de voir la réalité comme elle est. Or, le travail du chercheur, c'est de voir la réalité comme elle est et c'est pas de dire ce que devrait être cette réalité. Ensuite, les décideurs, les enseignants, les travailleurs sociaux, etc., ils font les choses. C'est pas aux chercheurs de dire ce qu'ils doivent faire. Bon, ni de dire ce qui est souhaitable, désirable, etc. Autre point noir, enfin gris ou je ne sais quoi, c'est le fait que les chercheurs, comme les professionnels, sont très souvent des parents également. Je ne sais pas si vous avez déjà parlé de ça. Je parlais de la FCPE. Vous savez quel est le premier groupe professionnel au sein de la FCPE ? C'est les enseignants. C'est logique, puisque la FCPE a été créée par désir du SNI. Hein ? Donc, c'était fait pour ça, je dirais, d'une certaine façon. Oui, merci de faire de l'archéologie. Le syndicat national des instituteurs. Celui que, dans les écoles normales, ancienne façon, vous aviez donc la mutuelle, l'assurance, le SNI, la CASDEN, etc., etc. Le KIT. C'est-à-dire avant que certains ne naissent. Donc c'est de l'histoire. Donc... Le fait que de nombreux chercheurs soient parents, que de nombreux professionnels soient parents, ce sont des choses qu'en général, on ne tient pas compte de ça. Il n'empêche, je peux vous le dire, que dans les colloques de chercheurs, quand on sort de l'atelier et qu'on mange ensemble le midi, de quoi ça parle ? Bah de nos enfants, bien sûr. C'est-à-dire de comment, en fait, dans nos réalités personnelles, etc., toutes nos recherches, nos théories, etc., s'appliquent. Et les échanges de tuyaux, etc., ça marche de la même façon que dans les cantines des collèges et des lycées ou ailleurs. Hein. Mais là où je voudrais en venir encore plus, c'est que c'est moi ce que je vois de plus en plus, c'est que ces professionnels, qu'ils soient enseignants ou autres, parlent très facilement et sans même s'en rendre compte comme des parents, alors qu'ils sont en situation professionnelle, dès qu'ils sont entre eux. Et en même temps, lorsqu'ils le font, ils ont une sorte de culpabilité, parce que ça, c'est pas pro, justement. Parler de soi comme parent, parler de ses enfants en situation professionnelle, c'est pas pro. C'est pas pro, mais on peut pas s'en empêcher, et on le fait tout le temps. Donc, vous voyez, il y a une sorte de difficulté comme ça. Et ce qui est très compliqué, c'est qu'il n'y a pas d'espace aujourd'hui où les professionnels, les enseignants en première ligne, puissent élaborer cette question, y compris dans les dispositifs d'analyse de pratique. Vous voyez, on est en analyse de pratique, alors on met sur la table les choses, etc. Sauf que cette parentalité de l'enseignant, eh bien, il n'y a pas d'espace, en dehors des espaces amicaux, conviviaux, etc., pour la travailler. Or, je pense de plus en plus, et ça aussi, ça m'avait échappé quand j'étais moi-même enseignant, je pense de plus en plus, en tout cas, c'est quelque chose que j'intègre aujourd'hui à mon travail clinique, socio-clinique, qu'il faut ouvrir des espaces pour penser ça. Sinon, ça pollue, en fait, on peut dire ça comme ça, ça culpabilise, etc., etc. Hein. Effectivement, ce sont des approches qui, d'une certaine façon, préfiguraient des pratiques de gouvernance d'aujourd'hui. Quand je vous parle de la LOLF, de ces FEI, on est dans la rationalisation, on est dans l'idée qu'on pourrait avoir une approche rationnelle, etc., avec l'idée que c'est pragmatique, etc. Mais vous voyez, à travers ce que je vous dis des modes d'évaluation, on peut dire aussi que c'est totalement irrationnel. Vous voyez bien comment la rationalisation peut déboucher sur une totale irrationalité. Hein. Mais le point d'appui, c'est la gouvernance. C'est ça. Les gouvernements ont besoin d'outils. Ils se dotent d'outils, de chiffres, etc., pour avoir au moins l'impression qu'ils pilotent quelque chose. Et le succès des travaux de l'IREDU venait beaucoup de là. On a. Avec des choses tout à fait contraires. Par exemple, c'est quand même aussi grâce aux travaux de l'IREDU qu'on a pu soutenir longtemps l'intérêt de l'hétérogénéité des classes contre les classes de niveau. Voilà. Mais en même temps, ce sont effectivement des travaux qui souvent étaient très discutés parce que dès lors que vous allez sur le terrain, que vous faites des enquêtes ethnographiques, que vous allez voir dans le détail, bah, vous vous rendez compte souvent que des analyses de type économique, etc., ça a ses limites quand même, une fois qu'on arrive aux acteurs, etc. Je termine sur la question des effets imprévus pour vous donner quelques idées comme ça un petit peu diverses. Ça va être des choses de différents niveaux que je vous livre comme ça. Effets imprévus que vous pouvez juger positifs ou négatifs. Tout à l'heure, je parlais de l'engagement des uns qui fait l'éloignement des autres. Voilà ce que j'appelle un effet imprévu, par exemple. Autre élément, donc celui-là, vous pouvez peut-être le trouver négatif. Bon, je sais pas, ça dépend de qui et de quoi. Autre effet, par exemple, pour les cafés de parents, moi, c'est quelque chose que j'ai vu dans des centres sociaux, etc., ou dans des collèges avec lesquels il y avait ce genre de choses. Eh bien, un effet imprévu non évalué, c'est le retour à l'emploi des mères. Voilà. C'est-à-dire que des femmes qui participent à ces groupes, on ne sait pas si au bout d'un an, deux ans, trois ans, elles sont meilleures mères ou plus à l'aise dans leur rapport parental, etc. Par contre, on observe, et là, on n'a pas. Là, vous voyez, c'est une intuition ce que je vous dis. C'est ce que j'ai vu dans certains dispositifs. Et quand j'en discute avec d'autres chercheurs, ils me disent « Ah ben oui, tiens, c'est vrai, on a vu aussi ». C'est que ces groupes permettent une sorte de formation à des compétences psychosociales pour les parents qui y participent, et du coup, ils reprennent un peu de confiance. Alors certains vont, alors ça on arrive à le voir, on s'intéresse à ça, ils vont aller par exemple se présenter aux élections de l'école. Alors ça on est content. Mais ils vont aussi aller vers des entretiens d'embauche ou entreprendre une formation, etc. Parce qu'ils ont vécu le café de parents comme une situation de formation. Finalement, ils ont moins peur, etc. Et ils sortent du quartier. Bon, vous voyez, ça sort des radars. Ce genre d'effet-là, c'est pas la même politique, donc ça n'a rien à voir. On peut trouver ça intéressant quand même comme effet. Hein, on peut se dire que même ça bénéficie à l'enfant tout de même. Bon. Alors que les mères, les mêmes mères, elles peuvent vivre ça de façon culpabilisante. Hein. Parce que si je repars chercher du boulot, etc., mes enfants, je les abandonne. Alors est-ce que le dispositif leur permet de s'émanciper de ça? Est-ce que le dispositif ne les rabat pas sur le soin aux enfants en les culpabilisant encore plus dans leur rôle maternel, ou est-ce que ça les autorise à confier leur gamin, à les laisser avec d'autres, etc., et à partir chercher du boulot? Vous voyez, là, les professionnels ont parfois des choses à interroger dans leur pratique. Hein, quel modèle ils transmettent? Autre effet, je vais peut-être choquer la moitié de la salle, mais je repère que ces dispositifs d'appui à la parentalité, quand ils fonctionnent, ou les mêmes choses, que ce soit dans l'école, hors l'école, etc., ont pour effet d'éloigner les pères, les hommes. Voilà. Alors souvent, on dit, les pères ne viennent pas, les pères disparaissent, on ne sait pas où ils sont, etc., etc. Et puis, avec les familles décomposées, recomposées, surcomposées, ils ne sont pas là, ils ont autre chose à faire, etc. Bon, d'accord. N'empêche qu'il y a des dispositifs aujourd'hui en France, y compris dans des endroits très reculés, comme au fin fond de la Picardie, là où je travaille beaucoup, qui savent attirer les pères. Et c'est éducation populaire, justement, des dispositifs montés avec les CMEA sur la fabrication, je vous donne un exemple, hein, fabrication de jeux Picard, on est en Picardie. Eh bien, je peux vous dire que les pères, ils viennent. Et c'est dans un collège. C'est l'assistante sociale et la CPE qui organisent le truc. Les surveillants, les profs viennent participer aussi. Eh bien, là, il y a des pères. Hein. Ils viennent avec les clous, les vis et les marteaux, etc. Et ils jouent le jeu. Et ils parlent. Comment ? Des pères, là, c'est les milieux, on dit, populaires. Hein. Une partie d'entre eux sont au chômage, etc. C'est les pères du quartier. Voilà. Et pour une fois... ils ont l'impression que le collège organise une activité qui s'adresse à eux et auquel ils ont un truc à apporter. Et là, on travaille des choses passionnantes. Les animatrices... c'était une animatrice qui pilotait et il y avait deux animateurs plus jeunes qui venaient avec elle, etc. Alors, c'est une femme qui a beaucoup d'expérience, etc. Et elle arrive à travailler la relation père-enfant autour de ces jeux, par exemple, lorsque l'enfant est capable, mieux que le père, de faire le plan du jeu, de mesurer, etc., etc. Et là, il y a quelque chose qui se joue entre le père et l'enfant, du type, je peux, moi, l'enfant, être plus compétent à certains moments du processus de fabrication, sur certaines opérations cognitives de calcul, etc. Et pour autant, toi, le père, tu restes le père. Avec ton autorité paternelle, etc. Et c'est toi qui vas dire quand on range les affaires et t'assurer qu'on repart et qu'on vienne. Voilà. C'est-à-dire que là, il y a un vrai travail qui se fait aussi sur ce qu'on appelle la parentalité, mais qui ne se fait pas sur un mode on est réunis ensemble autour de café, on apporte des gâteaux, etc. et on parle. Certains rigolent. Type de dispositif qui est ultra classique, ultra évident, sur lequel on ne se pose plus aucune question en France, et on pleurniche parce que les pères ne viennent pas. Vous voyez, j'y vais un peu rapide, vous voyez bien. Bon, on m'a parlé d'autres types de dispositifs qui avaient un peu le même effet. En France, on ne voit pas ce point aveugle. Au Canada, au Québec en particulier, il y a des publications qui pointent les effets genrés des dispositifs du travail social et des dispositifs d'appui à la parentalité. On peut le regretter. On peut dire les pères devraient accepter de rentrer dans des fonctionnements qui répondent à des stéréotypes, etc. D'accord. Vous voyez, je suis pas en train de... Bon. Après, on veut les pères ou on les veut pas. Voilà. Et puis, plus largement, je travaille régulièrement avec un groupe de femmes, RSA, atelier cuisine, remise, enfin bon, vous voyez ce genre de choses, dans une maison pour tous. Et elles arrivent à m'expliquer très tranquillement, très pragmatiquement, comment elles utilisent les dispositifs d'appui à la parentalité pour éloigner les pères. Voilà. Bon, ben, elles disent pour le bien de mes enfants, hein. Puis aussi parce que si je les quittais, il y a des raisons. Donc voilà, etc., etc. Donc ce que je veux dire là, vous voyez, c'est qu'il faut voir que cette absence ou cet éloignement des pères, ce n'est pas naturel. Vous voyez, arrêtons de prendre ce fait comme un fait naturel, normal, évident, partagé. Non, c'est une fabrication. Soit on va dans le sens, on suit ce sens, soit on essaye de faire autrement. Après, c'est des dilemmes. C'est des dilemmes, au jour le jour, etc., selon un certain nombre d'éléments. Et pour terminer, en rapport avec ce que vous disiez, un autre effet imprévu, c'est des mobilisations collectives. Alors là, les professionnels peuvent être très ambivalents aussi. C'est-à-dire, les professionnels, souvent, mettent en place des groupes des réflexions collectives, etc., etc. Et puis quand la mayonnaise prend, c'est plus compliqué. Par exemple, ils sont très contents que le centre social prenne en charge l'organisation d'une activité dans laquelle ils vont venir expliquer l'école aux parents. Et puis ça prend. Le groupe commence à se constituer. Et là, l'école commence à se dire, mais là-bas, en dehors de l'école, on dit quoi de nous ? Parce que effectivement, on dit, hein, moi j'y étais dans ces groupes, je peux vous dire qu'on radiographie l'école. Hein. On donne le détail de la vie privée, de quel prof vit avec tel autre prof, le nouveau chef d'établissement, d'où il vient, comment, etc. Enfin bon, vous savez tout ça. C'est-à-dire que ces parents qui se retrouvent en dehors, etc., souvent ils en savent plus que des enseignants qui sont dedans, mais il y a des choses qui ne se disent pas. Bah, là, il n'y a pas de tabou. Hein. Donc voilà. Sauf que ça, ça peut finir par inquiéter. Eh bien, un mouvement comme ATD Carmont, dont on l'a déjà cité, lui, il fait de ce travail, de cette tournure collective, un outil. Mais ça, ça veut dire, parce qu'on se disait, mais comment faire pour que des parents éloignés de classe sociale, etc., etc. Eh bien, la réponse, c'est le collectif. Ça veut dire que l'école doit accepter de ne plus être dans le un par un. Je rencontre le parent un par un. Non, là, si on veut vraiment faire avancer quelque chose de ce côté-là, il faut accepter de rencontrer des groupes, de rencontrer des collectifs, hein, qui viennent dire des choses qu'ils ont élaborées entre eux. Hein, là, ça renvoie à des démarches de l'éduc-pop, mais aussi, enfin, ATD a très bien formalisé ça, d'ailleurs, il y a des formations, etc. Mais ça existe en dehors, hein, bien sûr. Parfois, ça existe, je vous parlais de l'atelier cuisine, là, ça s'est bricolé. Ben, ces femmes, elles venaient faire la cuisine ensemble, mais maintenant, elles font une sorte de micro-lobby. Et je peux vous dire qu'elles ont une force de frappe. Hein. Quand elles ont décidé qu'elles allaient dégommer un enseignant, je parle exprès comme ça parce que c'est ce qu'elles disent, dégommer un enseignant qui déconne, disent-elles, dans tel collège, eh bien elles s'organisent. Voyez ? Et elles ont beau ne pas avoir de boulot, etc., être très loin de l'école, avoir une scolarité chaotique, etc., elles ont construit une réflexion, elles ont trouvé des appuis, elles ont mobilisé des relais, etc., et c'est un contre-pouvoir. Voilà. Et c'est bien des femmes qui ne sont pas à la FCPE, pas à la PEP, elles sont en dehors des clous, mais elles se sont organisées. Et il y a des moments, elles n'ont pas le langage qu'il faut, alors elles se font sortir, et puis elles y retournent. Voilà. Donc c'est ça aussi. Et là-dessus, tous les chefs d'établissement, tous les enseignants ne sont pas également armés. Il y en a qui savent très bien faire avec ça, qui sont très contents de voir arriver un groupe un peu énervé. Et il y en a d'autres, ils ont déjà fermé toutes les portes. Voilà. Je termine, ben j'ai un petit peu dépassé. On a un petit peu interagi. J'ai à peu près réussi à dire ce qui me semblait un petit peu utile. Vous comprenez que moi, mon intérêt, c'est de vous dire, décentrons-nous. Pour comprendre ce qui se passe à l'école, ne restons pas à l'école. Regardons ce qui se passe autour, regardons les ressources, élargissons. Faisons de l'élargissement du champ de vision.